bordelbrefm.fr.
Une vague d'émotions.
C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur bordelbrefm.
C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Souston, à l'occasion du Salon de l'Artisoade organisé par l'association L'Art et Création. Céramistes, peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux en pièces de monnaie, artisans d'art, auto-éditeurs, illustrateurs, relouqueurs de meubles, autant de créations à la disposition du public et de belles rencontres à faire. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe.
bordelbrefm.fr.
Suzelle, bonjour, vous êtes la présidente de l'Art et Création à Souston. Et aujourd'hui, nous sommes à une manifestation qui s'appelle l'Artisoade que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette manifestation qui est assez récente, je crois, dans l'histoire de votre association ?
Oui, bonjour, donc Suzelle de l'association de l'art et création, et nous sommes à la 4e édition de l'Artisoade. C'est un salon d'art et d'artisanat. Rien d'industriel, tout est fait à la main, tout est fait avec des machines, mais par des hommes et qui sont là. Il y a un peu tout qui est représenté, il y a du bijou, il y a des bois, il y a de la sculpture, de la peinture, de la mosaïque.
Comment vous opérez le choix de vos exposants ?
Alors maintenant, on commence à être un petit peu connu, mais on fait un appel à candidature avant l'été ou à la rentrée. Et ensuite, on est un comité de sélection pour qu'il y ait un peu toutes les techniques représentées et qu'il n'y ait pas qu'une seule technique.
Pour qu'on se rende compte, il y a combien d'exposants aujourd'hui, par exemple ?
Une trentaine.
Et il y a aussi des ateliers qui sont proposés au public. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces ateliers ?
Alors, ce sont les ateliers qui sont dispensés par les animateurs et animatrices de l'association. Parce que l'association La Récréation, à la base, c'est une association qui proposait des ateliers de peinture. Aujourd'hui, il y a des ateliers de dessin, de peinture, de mosaïque, d'aquarelle. Et depuis le début de l'année, là, un nouveau venu qui nous propose des ateliers de manga. Ça, c'est toute l'année scolaire. Ça commence en septembre et ça s'arrête fin juin. Et en dehors des vacances scolaires. Et donc là, c'est toutes les semaines sur des ateliers récurrents, donc des adhérents de l'association.
L'Artisoade, un bien joli nom, une signification particulière, une histoire particulière liée à ce nom ?
Alors ce nom, c'est parce que moi je ne suis pas de la région, donc je ne parle pas gascon, mais en cherchant sur internet, artisan, a priori se dit en gascon Artisoade, d'où le nom, puisqu'il y a art dedans, donc ça faisait les deux, art et artisanat d'art.
Merci pour ce complément d'explication, on vous souhaite un bon salon et de bonnes ventes à tous vos exposants.
Merci beaucoup.
Alors, je suis au stand de Laure Kessing, qui est auto-éditeur. Donc, on va parler un petit peu de ce travail d'auto-édition. Comment vous est venue l'idée d'éditer vous-même des ouvrages ?
Eh bien, comme je vous disais, en fait, tout naturellement, en envoyant quelques manuscrits de mes écrits, n'ayant pas de retour et ayant envie d'aboutir à mes projets, j'ai pris le parti d'éditer moi-même mes livres. Voilà.
Comment on fait pour éditer soi-même des livres ? Vous avez une petite recette d'un livre en auto-édition. Vous pouvez un petit peu nous la commenter et la partager avec les auditeurs ?
Oui, alors bon, c'est humoristique. Évidemment, pour écrire un livre, il faut avoir l'idée. Il faut un auteur pour écrire. Bon, je ne sais plus trop bien ce que j'ai écrit, mais... voilà, oui, une bonne dose d'entrain, c'est-à-dire qu'il faut plutôt de la persévérance, parce que voilà, il faut... Il faut aller jusqu'au bout du projet, c'est pas un métier facile parce qu'on est tout seul dans son coin à écrire et après partager avec le public c'est quelque chose d'autre mais qui est intéressant aussi. Et donc l'auto-édition, donc on écrit soi-même l'histoire, on met en page. Bon moi maintenant je fais intervenir une correctrice pour éviter les coquilles. Et puis, je fais imprimer chez un imprimeur. Voilà. Bon, j'ai choisi un imprimeur local, mais on peut choisir n'importe quelle sorte d'imprimeur. Je mets en page aussi moi-même les couvertures. Je fais mes couvertures moi-même, mais on peut aussi faire appel à un infographiste si on ne s'en sent pas le courage. Et voilà, on paye donc soit... En fait, l'auto-édition, on paye tout soi-même. Hein. Soit on fait faire, mais enfin, c'est un investissement personnel. Et le plus dur, c'est après, c'est la vente, c'est la public, c'est la, la promotion, la communication autour de l'ouvrage. Bref, c'est se faire connaître, quoi. C'est un métier de communication à part entière. C'est le moins facile pour moi, voilà. Mais après, sinon, être sur les marchés, au contact des lecteurs, ça, j'aime bien. Mais faire toute la pub sur les réseaux et tout ça, c'est plus compliqué, mais ça fait partie du job en auto-édition.
Vous avez écrit ou auto-édité combien d'ouvrages actuellement ?
J'en suis à 5. Là, sur ma table, vous n'en voyez que 4 parce que le cinquième, je n'en ai plus. Il est bien parti, c'était un livre illustré à l'aquarelle sur un chat. Voilà. Donc j'en ai 5, il y en a un sixième en cours.
Et vos livres parlent de quoi ? Qu'est-ce qui vous inspire ?
Moi, ce qui m'inspire à la base, c'est l'être humain. Ce que j'écris, c'est beaucoup de dialogues sous forme de pièces de théâtre. Et je fais intervenir des personnages assez insolites. On va dire que ce sont des concepts, des idées, qui parlent entre elles, mais qui parlent de l'humain. Et donc, c'est rigolo parce que c'est l'humain, c'est de la dérision, c'est de la satire sur nos petites contradictions, nos travers humains. Voilà. Et sinon, si j'ai écrit deux livres autobiographiques, mais toujours dans la dérision, donc en l'occurrence de l'auto-dérision, mon passage dans la fonction publique territoriale et un voyage que j'ai effectué dans le désert, en Jordanie.
Une plongée amusante dans la territoriale.
Et oui, c'est amusant parce qu'on peut le voir du bon côté, avec du recul. Voilà, c'est mon vécu personnel. J'y suis restée que 6 ans, c'est-à-dire que ce n'était pas un fonctionnement pour moi. Et j'ai eu besoin de l'écrire 10 ans après, quand même, avoir quitté la fonction publique. Et donc, 10 ans après, ça permet de prendre du recul et puis de pouvoir en rire. Voilà.
Autre particularité à votre stand, donc vous faites de l'aquarelle et puis vous vendez aussi de magnifiques calendriers perpétuels. Ce talent pour l'aquarelle vous vient d'où ?
Oh bah merci. J'aime écrire et peindre et dessiner depuis que je suis petite. Hein. Après, l'aquarelle, c'est quand même une technique particulière. J'ai quand même pris quelques cours. Et puis, c'est de l'entraînement. Hein. Voilà, on fait à la maison. Il y a beaucoup de ratés, hein, faut pas croire. Et je les affiche pas.
C'est ça. Et puis, il y a pas mal de chats aussi.
Oui. Ça, c'est parce que j'avais un très joli modèle à la maison.
Alors, on vous souhaite une bonne continuation et de nouveaux ouvrages.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, je suis au stand Hormup avec Emmanuel Baille qui propose des meubles relookés. Moi, je voudrais savoir d'où vient cette passion qui est devenue un petit peu plus qu'une passion maintenant.
Alors, ça vient d'une histoire de famille. Comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvée à devoir vider la maison de mon papa. Et donc, il y a des meubles, beaucoup de meubles que j'ai donnés à Emmaüs. Et d'autres, je me suis dit qu'il y avait une histoire pour moi. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, mais ils n'allaient pas dans mon intérieur. Donc voilà, je me suis mise à les retravailler.
Et on retravaille ça comment, du coup ?
On retravaille ça avec beaucoup de patience et d'amour. Et donc avec des produits, j'utilise de l'aérogommage. Je fais ça avec des coquilles de noix écrasées notamment pour rester dans du naturel. Et j'utilise uniquement des produits et des peintures biosourcées.
Donc je vois dans votre carte effectivement que vous utilisez des procédés éco-responsables que vous revendiquez. Donc c'est des choses que vous connaissiez avant ou que vous avez expérimentées
Alors c'est des choses que j'ai expérimentées au fur et à mesure, et puis la première chose surtout c'est que comme je les travaille, je les respire, donc je voulais des produits qui soient bons pour l'environnement. Et ensuite je me suis formée, j'ai trouvé donc une marque Kamael avec qui je travaille à 90% du temps, et je me suis formée avec eux sur tout ce qui est patine et utilisation de leurs produits.
Donc une fois que vous avez relooké vos propres meubles, vous avez cherché d'autres meubles parce que ça vous a plu, franchement.
Voilà, tout à fait. Et je me suis aperçue, alors c'était des meubles, mais c'est aussi des objets. Ça peut être des miroirs, ça peut être des choses à changer, à trouver un autre environnement, à leur trouver un autre... parfois une table de chevet peut venir en bout de lit, finalement. Une armoire peut venir dans une entrée. Faire en sorte que les gens ne jettent pas les meubles.
Donc du coup, maintenant, vous chinez et vous relookez pour d'autres ?
C'est ça, tout à fait. Et à terme, là, je suis en train d'agrandir mon atelier. J'aimerais proposer des ateliers à quatre mains où les gens peuvent aussi venir et je peux faire avec eux, leur donner voilà, quelques tuyaux pour relooker et transmettre moi et eux qui fassent aussi.
Où est votre atelier du coup ?
Sur Cam-Breton.
Donc c'est pas loin. Donc il faut un peu de place, il faut promouvoir absolument ça parce que je crois que moi la première, je vais être très intéressée par du relooking de meubles.
C'est parfait, merci beaucoup.
Bonne chance pour la suite.
Merci.
Nicolas Gutiérrez, bonjour. Donc vous avez un stand avec des bijoux qui sont un petit peu particuliers. Ils sont faits avec des pièces de monnaie et votre stand s'appelle les Anneaux d'Ort. Vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours ?
Oui, bonjour. Alors donc je suis à la base pipier. Donc fabricant et restaurateur de pipes en Pays d'Orthe, à Bellus. Et j'ai commencé à créer ces anneaux il y a 2 ans et demi maintenant. D'abord, j'ai fait une série de pipes avec des bagues à partir de pièces de monnaie. Et un jour, un client m'a demandé, content de sa pipe, de lui faire le même anneau qu'il avait sur sa pipe, mais pour son doigt. C'était il y a 2 ans et demi. Depuis, ça a un petit peu débordé. Et donc maintenant, voilà, c'est vraiment une activité pleine et entière, quoi. Ouais.
Alors j'ai une première question, comment on en vient à fabriquer des pipes déjà ? Il y a une formation, comment on s'y prend ?
Non du tout, le métier n'existe plus. Officiellement, on est rangé avec les fabricants de jouets, les sabotiers, voilà. Il n'y a plus de formation, il n'y a pas de diplôme de pipier, ça n'existe pas. On est 8 fabricants en France et 2 restaurateurs, simplement. Voilà, donc j'en suis venu là parce que je suis fumeur de cigares à la base. J'aime les bons tabacs et donc j'ai voulu goûter la pipe. Je suis arrivé sur une pipe de très mauvaise qualité qui était accessible à mon budget mais qui était vraiment infâme et j'ai eu envie de faire mieux. Voilà. Et passionné par le bois, très vite j'en ai fait mon métier en fait.
Vous en avez fait votre métier et puis vous avez trouvé un autre métier. Comment il est venu ce goût pour le travail, pour les bijoux et pour le travail des pièces ?
Alors tout petit, ma grand-mère mettait de côté des pièces de monnaie. Donc j'avais une petite collection à moi que je trifouillais tous les week-ends, voilà. Et j'ai retrouvé quelques pièces de monnaie. Cette passion a grandi, hein. J'ai collectionné beaucoup de monnaies féodales, des monnaies antiques, des romaines, des gauloises. Et là aujourd'hui, naturellement, alors je fais plusieurs choses, hein. Je forge pour des anneaux, donc là la pièce de monnaie est complètement détruite, elle est transformée en anneaux, donc c'est que des pièces courantes. Mais après je peux aussi monter donc des gauloises, des romaines, là avec un travail plus particulier de certiplat pour ne pas abîmer la pièce. Mais ça voilà, ça part de cette passion aussi pour la monnaie.
Et du coup on se forme comment là vous ?
Je suis autodidacte. Dans ces deux métiers-là, je suis complètement autodidacte. Donc je regarde des vidéos à droite à gauche, et puis je fais des tests, et je me trompe beaucoup, et je loupe beaucoup de choses, et c'est pas grave. Alors l'avantage de la bijouterie, c'est, contrairement au travail du bois, c'est que si c'est loupé, on fond la matière, elle est pas perdue. On fait un lingot, on passe le lingot au laminoir, on refait des fils, et en avant, on peut refaire un bijou avec.
Au niveau des pièces, donc vous récupérez des anciennes pièces en centimes, mais pas que. Vous pouvez aussi travailler, j'imagine, à la demande avec des pièces de collectionneurs qui voudraient les valoriser sous forme de bijoux, peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, donc, on peut soit piocher dans mon stock avec des monnaies en argent classiques, les semeuses fin 1800, début 1900, ou des pièces un peu plus anciennes. Il y a des Napoléon III, des Louis-Philippe Ier. Mais évidemment, si des gens ont des pièces de famille ou des souvenirs de voyage avec des monnaies étrangères qui voudraient monter en bijoux plutôt que laisser ce souvenir dormir dans un tiroir, c'est tout à fait possible. Et du coup, le bijou est même moins cher puisqu'on me fournit la matière première.
Donc, votre boutique ou votre atelier plutôt, c'est les Anneaux d'Orthe. On peut trouver ça sur Bellus, donc, si j'ai bien compris. D'accord. Et un site peut-être pour se rendre compte de votre travail ?
Oui, c'est le www.lador.fr. L-A-D-O-R.fr.
Très bien. On vous souhaite une bonne continuation, que ce soit dans le domaine donc, des pipes rénovées ou nouvelles. Et puis des pièces qui sont une seconde de vie sous forme de boucles d'oreilles ou de bagues.
Merci beaucoup.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant ? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Garder les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison. Je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres. Je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust. Je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister, mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Retour au salon de l'artisanat organisé par l'association L'Art et Création à Souston. On va poursuivre notre déambulation et on va rencontrer d'autres artisans créateurs. Suivez-nous, c'est par ici que ça se passe.
C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Je suis maintenant au stand de Francis Verdier qui propose des sculptures marines en métal. Alors j'aimerais savoir un petit peu comment vous est venu ce goût pour le travail du métal en le sculptant. Je crois que c'est une passion qui est venue un peu sur le tard.
Oui, en effet, sur le tard. En fait, c'est le côté un peu positif du Covid, du confinement, qui m'a obligé, étant à la retraite, qui m'a obligé à trouver une occupation sérieuse. Et donc, un copain faisait déjà ça, et il m'a enseigné les fondamentaux, les rudiments, et donc ça m'a plu tout de suite. Dès les premiers moments, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire pour moi. Et voilà, donc ça fait 3 ans, 2021, oui, que je m'initie à la soudure, à la sculpture, à la chaudronnerie, Voilà, ça a l'air de plaire. Moi, ça m'occupe mon temps, ça occupe mon esprit, ça occupe mes mains. Donc, c'est parfait pour moi. Le résultat est là. Donc, voilà, pourvu que ça dure.
Du coup, vous avez monté un atelier chez vous. Ça demande quand même du matériel, de l'investissement et un peu de place.
Pas vraiment. Le local, je l'avais. C'était un garage abandonné qui n'était pas occupé. Donc, un petit coup de peinture. Je l'ai transformé en atelier, en galerie pour exposer ce que je fais. Et étant sur la presqu'île du Cap Ferret, tout près de l'eau, j'ai choisi les poissons, ambiance bord de mer, ça plaît, et moi ça me plaît bien de réaliser ça. L'investissement, il n'est pas si lourd que ça, les prix ont bien chuté. Maintenant, vous pouvez souder avec un poste à soudure à 100€, un torche à plasma à 150€, et voilà, et avec ça on fait du très bon travail, travail d'amateur, mais travail quand même bien fait. Bien réalisé, donc non, c'est pas vraiment très lourd, ni financièrement ni matériellement.
Les métaux que vous utilisez, vous les procurez comment? C'est du recyclage ou vous achetez des tôles que vous retravaillez?
Alors j'aime bien le recyclage parce que ça redonne une vie à quelque chose qu'on va amener à la déchetterie, donc les vieilles tôles de fond de jardin, ça me plaît beaucoup. Et puis, mais après, ça ne suffit pas forcément parce qu'il faut les trouver. Et donc après, il y a aussi les feuilles d'acier achetées, neuves. Mais je m'attache toujours à y rajouter des petits éléments qui vont partir à la déchetterie. Et j'aime bien leur donner une deuxième vie en les intégrant dans mes sculptures, même si les feuilles d'acier sont récentes.
Est-ce qu'il y a un site où on peut voir votre travail pour se rendre compte ?
Alors, je n'ai pas de site, mais par contre, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste toutes mes réalisations depuis mes tout débuts en 2021 à ce jour. Tout ce que j'ai pu faire ou organiser comme expo ou c'est sur mon compte Instagram.
Donc je vais donner l'adresse du compte Francis Verdier, V-E-R-D-I-E-R 33, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Comme ça, si les auditeurs sont un peu curieux, ils pourront voir votre travail et se rendre compte de l'investissement que vous faites et du type de poissons et d'animaux marins que vous proposez, qui sont très très variés. Donc il y a des grosses pièces, il y a des pièces moyennes, il y a des petites pièces, il y a des pièces solo, il y a des pièces avec des bancs de poissons. Moi, je vous invite à aller découvrir le monde de Francis Verdier.
Merci.
Patricio Goua, donc vous êtes mosaïste et vitrailliste. Expliquez-moi un petit peu d'où vous vient cette passion. Est-ce que c'est votre métier ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en complément ?
La passion m'est venue en arrivant en retraite. J'avais envie de m'occuper. La mosaïque était parfaite. Donc j'ai commencé la mosaïque et j'ai pris des cours à Thalère avec Mathilde Huillier, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Puis au fur et à mesure, je me suis un peu émancipé. J'ai refait des visages. Et dernièrement, je voulais travailler le verre en complément de la mosaïque. Et comme c'est un exercice qui est assez proche entre la mosaïque et la découpe du verre. Donc ça marche très bien, je peux varier les couleurs, qu'on est plus limité dans la mosaïque, mais voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail des couleurs et des formes ?
Déjà, mon père était maçon. En étant petit, il m'avait fait travailler un peu la mosaïque, je travaillais avec lui. Et puis ça m'a toujours attiré, travailler la pierre, sculpter. Tout ce qui est manuel m'a toujours attiré. Et puis varier les formes et les couleurs m'a toujours plu. Donc en retraite, c'était l'occasion de me donner en plein temps à ce que j'aimais faire.
Du coup, vous avez installé un atelier chez vous, j'imagine, parce que ça prend un peu de place, tout ça.
Oui, oui, oui. J'ai un petit atelier. J'ai la chance d'avoir un petit terrain avec une petite, un petit cabanon. Que là, je peux faire ma mosaïque et le vitrail. Donc c'est parfait pour occuper mes journées de retraité.
Alors vous expliquez que donc c'est Mathilde Huillier qui vous a mis un petit peu le pied à l'étrier pour la mosaïque et pour le vitrail. Vous avez fait ça en autodidacte ou comment vous y êtes pris pour passer de l'un à l'autre ?
J'ai mon voisin qui faisait du vitrail et il m'a contacté, il me disait si je voulais essayer. Donc j'ai essayé l'an dernier à Seignos avec un maître verrier qui m'a montré comment travailler le verre, la découpe et puis après, ensuite l'assemblage et la soudure. Donc ça m'a plu tout de suite et maintenant je fais autant de vitrail que de mosaïque. Je trouve que ça va bien ensemble. Et le verre, ça permet aussi de jouer plus sur les nuances au niveau de la teinte et au niveau du toucher. C'est complètement différent et ça me plaît. Donc voilà, la passion est arrivée comme ça.
Des projets ?
Oui, j'ai beaucoup de projets. Je voudrais bien. Bon, là, j'ai fait une série avec des regards urbains. Et là, je vais faire plutôt des femmes, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Donc, je vais me lancer sur à peu près la même chose. Par contre, j'aime mettre de la couleur dans les personnages, parce que je trouve que, bon, c'est assez triste en ce moment. Il faut mettre de la couleur pour égayer un peu tout le monde. La plupart des tableaux, vous voyez, là, celui-ci, j'ai appelé regard urbain. C'est un peu une tête de mort parce que j'ai essayé de représenter un peu la tristesse du citadin qui perd espoir dans les grandes villes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit les couleurs qui s'échappent par le haut. Et ensuite, là, c'est un peu le renouveau. La couleur, c'est l'espoir, c'est tout ça, quoi.
Merci Patricio pour ce témoignage et on vous souhaite une bonne continuation avec plein de nouvelles réalisations à proposer aux visiteurs.
Oui, je vous remercie. À bientôt.
Gérard Picard, bonjour. Donc vous avez un stand de peinture dans ce salon de l'artisoade. Est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter ? Parce que vous êtes un peintre de longue date, mais un soustonnet de fraîche date, je crois.
C'est ça. Je suis né au soustonnet depuis 3 ans, c'est-à-dire exactement 15 jours avant le confinement. Donc nous sommes arrivés de Toulouse en fait, hein, pour habiter dans les Landes. Et j'avais arrêté la peinture pendant un certain temps pour faire plutôt de l'écriture, de presse. Et depuis 2 ans, j'anime un atelier d'art plastique au centre social de Souston. Et ça m'a redonné envie de peindre. Et en particulier, depuis cette année, je fais un travail sur la forêt landaise. La forêt landaise, un petit peu à ma façon, avec beaucoup de couleurs, mais en essayant de respecter l'âme de ce paysage qui est fait de vertical et d'horizontal. Donc assez simple, mais si on y regarde de plus près, on peut avoir des pins. On va avoir un pin qui va dépasser un autre. On va avoir une petite butte, une petite ondulation. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est cette petite différence qu'il va y avoir dans l'alignement qui semble rectiligne de la forêt.
Je ne vois pas que de la forêt, il y a aussi la plage qui vous inspire et puis la figure humaine aussi.
Alors voilà, bon, donc là j'ai parlé de la forêt parce que c'est un travail que j'ai fait en 2023. Mais sinon j'ai 2 autres dadas que je peins régulièrement. C'est-à-dire je fais je travaille sur les films noirs, les polars américains entre autres. Et également sur on va dire entre guillemets les pin-up à la plage. Donc ça fait partie, disons, il y a des portraits aussi. Mais ça, c'est un petit peu plus ancien, des portraits d'actrices, un petit peu plus ancien. Ce que je peux rajouter, par contre, dans le travail actuel, c'est que les derniers travaux, ça se fait au pastel sec. Mais je traite un petit peu à ma façon, c'est-à-dire que je le fixe et je le termine en passant un liant acrylique qui donne un aspect totalement pictural de l'œuvre. Et on ne voit pas du tout que c'est du pastel, en définitive. Par contre, j'utilise le pastel parce que ça me permet de faire à la fois du flou et ça peut permettre également de faire des choses précises. Mais c'est surtout sur le côté flou qui est intéressant et surtout sur la forêt quand on fait un travail sur le paysage.
Alors, votre travail, effectivement, il est coloré. Il est à la fois réaliste et abstrait. Comment on pourrait le qualifier ?
Oui, c'est une bonne remarque. Je fais un travail de représentation. Effectivement, c'est une peinture figurative. Mais je ne cherche pas à reproduire la réalité. Donc effectivement, ce travail sur la forêt, il y a un côté abstraction assez net. On voit bien des formes, mais les couleurs sont totalement imaginées. Ce n'est pas du tout les couleurs de la nature. Donc c'est un travail pictural. Ce qui m'intéresse, c'est la peinture. Donc le sujet permet de travailler la peinture d'une certaine façon.
Vous exposez régulièrement ?
J'ai eu exposé régulièrement, donc ça fait plusieurs années que je n'ai pas exposé. Et donc cela, c'est la première fois que j'expose sur Souston, donc dans la région.
Donc votre reconversion ici, c'est plutôt tourné vers les autres et le partage, donc si j'ai bien compris.
Oui, c'est cela. Bon, j'étais déjà, avant de venir à Souston, pendant 10 ans, président d'une association qui gérait une galerie d'art à côté de Toulouse. Et ici, je me suis également engagé du côté associatif, donc à la récréation, dont je suis le secrétaire, et également donc au centre social, à la passerelle, où j'anime un atelier d'art plastique. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de partager, parce que bon, je connais pas mal la peinture, enfin, j'ai suivi pas mal de cours également, c'était pas mon métier, mais c'est une passion depuis toujours. Et depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, je fais partager cette passion autour de moi.
En quoi ça peut être important de proposer des ateliers artistiques aux gens ?
Là, dans le cadre de la passerelle, ça s'est ouvert à tout public. Ce qui est important dans l'atelier que j'anime, c'est surtout de donner confiance aux gens, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, même s'ils n'ont aucune base, aucune technique. C'est surtout les encourager et de forcer ça, leur personnalité. L'atelier, on va dire qu'on le fait de manière sérieuse mais en s'amusant. Mais j'hésite pas non plus à les bousculer. Il n'y a que des femmes. Ça, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes aussi, mais il n'y a que des femmes. Et ce que j'essaie de faire, c'est de leur faire sortir leur personnalité. Si vous voulez, je pourrais être caricatural, mais j'aime pas du tout. Je les force à faire quelque chose qui ne soit pas mièvre. Il faut que ça représente vraiment la responsabilité, la personnalité de chacune. Et ça marche pas mal, parce que à force d'en faire, puisque ça fait 2 ans que je fais ça et c'est à peu près les mêmes personnes qui y sont, et bien ça progresse, petit à petit ça progresse. Et donc c'est très intéressant, et pour elle et pour moi, hein, parce qu'il y a un bon retour.
Un atelier d'expression de soi en fait.
Oui, c'est un petit peu le but de la passerelle, hein, ceci dit. Hein. C'est quand même, on fait que de la peinture pratiquement, un peu de collage et pas mal de peinture. Et après, on participe aussi avec, par le biais donc, du centre social, aux différentes manifestations, on va dire, socio-culturelles de la municipalité. Donc elle participe à des expositions régulièrement sur Souston. Donc c'est motivant et ça fait avancer tous ces gens de l'atelier.
Un endroit où on peut voir votre travail ? Un site ?
Ben, y a mon site, oui, c'est gpicard.fr. Donc Picard, c'est comme les surgelés.
Donc comme les surgelés, avec un D.
Exactement.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Ainsi s'achève cette émission « C'est par ici que ça se passe » à l'occasion du Salon de l'Artisoad organisé par l'Art et Création à Souston. On se retrouve une autre fois pour une autre émission et une autre actualité de votre territoire. À bientôt.
Bordalbray FM, toujours là pour vous.